Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est croire à sa parole, c'est croire à cause des œuvres qu'il a faites, c'est croire à cause du témoignage qu'il a manifesté. Et lorsque nous lisons Jean 5, le Seigneur rappelle tout cela aux Juifs pour dire « Mais vous, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie, mais vous refusez de venir à moi. Vous vous dites enfant de Moïse, mais si vous croyez en Moïse, alors vous devriez aussi croire en moi. » Le Seigneur dit « Moi, je ne me juge pas, je ne viens pas comme en mon nom, mais les œuvres que je fais témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. Les Écritures elles-mêmes parlent de moi. » Donc lorsque le Seigneur dit que « afin que quiconque croit en lui ne périsse point », c'est afin que quiconque croit en son Fils Jésus, mais croit à l'évangile avec lequel il est venu, croit à la bonne nouvelle avec laquelle Jésus-Christ est venu pour recevoir le salut. Et la Bible nous dit aussi dans les livres de Corinthiens que Dieu a trouvé bon de sauver les hommes par la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui est une véritable puissance pour ceux qui croient. Donc c'est par la prédication de la croix, par ce que les hommes trouvent comme insensé, le fait qu'une personne meure sur la croix et qu'à travers cette mort, cela puisse produire la vie. Or Dieu dit que c'est comme ça qu'il a choisi de sauver l'humanité. Donc l'évangile est l'instrument principal de Dieu pour amener au salut. Les paroles de Jésus sont les paroles qui produisent la vie, qui produisent la paix, qui produisent la délivrance. C'est par l'évangile que le Seigneur a voulu toucher l'homme. Or, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est un constat qui emmène certaines personnes à remettre même l'évangile en question. Nous voyons différents mouvements chrétiens. Ils se disent chrétiens. Certains pensent que Jésus-Christ est Dieu, d'autres disent qu'il n'est pas Dieu. Certains prient au nom de Marie, d'autres invoquent encore le nom de Pierre, le nom des autres apôtres, et pourtant tous se disent chrétiens. Et il y a des gens qui regardent, qui observent tout cela de l'extérieur et qui remettent en cause l'évangile. Mais si réellement il y a un seul Dieu, si réellement il y a un seul évangile, alors pourquoi y a-t-il des sectes qui se disent chrétiennes? Pourquoi y a-t-il des mouvements où les personnes se font appeler aussi chrétiens? Il y a un problème. Jésus-Christ lui dit même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur est clair. Il dit clairement que c'est par lui qu'on arrive au salut. Or, ce que nous voyons, c'est que le monde propose divers chemins qui mènent à Dieu. Et on dit, pour, je dirais, embellir la chose, qu'il y a un seul Dieu, mais qu'en fonction des régions, en fonction des origines, en fonction des pays, il agit tout simplement de manière différente. Or, la Bible est claire. Il y a un seul Dieu. La Bible est claire, il y a un seul Messie. Et ce Messie-là dit qu'il n'y a que sa parole qui est véritable. Plusieurs paroles de la Bible nous montrent qu'on ne peut ni ajouter ni retrancher les paroles du Seigneur. Il y a un seul évangile, mais le constat que nous faisons, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements qui se disent chrétiens. Et encore plus grave, même auprès de ceux, entre guillemets, qui sont censés être dans la vérité, donc je parle de ceux aujourd'hui qui se font appeler évangélistes ou encore pentecôtistes, ceux qui ont, entre guillemets, compris l'évangile, qui ont compris la bonne nouvelle. Mais nous voyons que même dans ces mouvements-là, les mêmes chrétiens qui reçoivent la même prédication, eh bien, chacun va manifester d'une manière différente. Alors nous allons apprendre dans certaines églises pentecôtistes que fumer, ce n'est pas grave, petit à petit Dieu va te délivrer. Et il y a d'autres qui diront, non, fumer c'est grave, c'est un péché. Si le Seigneur revient au moment où tu es dans la cigarette, tu restes sur la terre. Alors, il y a des chrétiens qui se sentent confortés parce que certaines autorités de l'Église disent que le péché dans lequel tu es, petit à petit, tu vas en sortir, Dieu va comprendre. Et il y a d'autres qu'on dit qui sont extrémistes, qui disent que non, Dieu ne comprend pas. Si tu ne changes pas aujourd'hui et que Dieu te trouve dans ce péché-là, tu mourras. Et chacun défend sa position avec le même évangile. Alors, il y a un problème. Est-ce que Dieu parlerait dans une région d'une manière et il permettrait que d'autres interprètent d'une autre manière dans un autre pays. Il y a un problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien sent appeler le corps du Christ? Le corps peut-il être divisé? Est-ce que dans le corps tel que nous sommes constitués, dans le bras gauche ou dans le bras droit, ce n'est pas le même sang qui coule? C'est le même sang qui coule. Alors comment, dans le même corps, Dieu pourrait permettre à certaines personnes de faire telle chose et à d'autres de ne pas le faire? Il y a un problème quelque part. S'il y a un seul Dieu, il y a un seul évangile, il doit y avoir aussi une seule interprétation. Il y a un seul esprit qui nous permet tous de comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que nous allons essayer de partager ce soir pour essayer de comprendre. Il y a même des gens qui s'inquiètent, qui disent « Mais tel avait entendu l'évangile, mais vraiment, est-ce qu'on lui a expliqué ?» Dieu permettrait-il qu'une personne entende l'évangile pour ne pas qu'il soit sauvé? Le Seigneur est venu annoncer l'évangile pour amuser les gens. Non, bien-aimé, il est venu annoncer l'évangile pour sauver. Donc, lorsque Dieu parle au travers d'un serviteur quelconque, au travers d'un chrétien quelconque, lorsque Dieu parle, c'est qu'il veut produire quelque chose. Lorsque l'évangile est annoncé, c'est pour amener à la conversion. C'est pour amener à la repentance, c'est pour transformer, c'est pour corriger, c'est pour reprendre, c'est pour annoncer les choses à venir. L'évangile ne peut pas être annoncé d'une manière différente que Dieu le veut. Alors pourquoi y a-t-il tant de divergences aujourd'hui? Est-ce que le problème vient de Dieu? Est-ce que l'évangile serait tellement compliqué à comprendre qu'il ferait qu'il y a simplement des gens intelligents qui peuvent comprendre l'évangile et qui soient sauvés? Et ceux qui n'ont peut-être pas été à l'école ne peuvent pas comprendre cet évangile et finalement finir en enfer. La Bible déclare que dans le Seigneur, il n'y a point de favoritisme. Nous avons cité Jean 3,16 qui montre que Dieu ne fait aucune distinction. Il a donné son Fils unique pour tous les hommes, pour tous les hommes de cette terre. Et cet évangile que le Seigneur est venu annoncer, il est venu l'annoncer pour toutes les nations. Nous lisons Jude au verset 3. Jude, verset 3, la Bible dit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. » Voici ce que dit Jude. Je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. L'apôtre Paul dira aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La foi dont il est question dans ce contexte-là, ce n'est pas la foi, la confiance, l'assurance que nous pouvons avoir en Dieu. Elle est liée, bien entendu. Mais la foi dont il est question là, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et Jude dit, parce qu'il s'est glissé parmi vous plusieurs personnes dont la condamnation est déjà écrite et qui veulent changer la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la seigneurie de Jésus-Christ sont des fondements élémentaires, sont des fondements très importants de l'évangile que nous avons reçu. L'évangile est basé sur la grâce. C'est la grâce qui fait même l'évangile, le fait que nous soyons sauvés d'une manière gratuite. Donc c'est un fondement qui est essentiel. Le fait que Jésus-Christ soit Seigneur, que Jésus-Christ soit le Messie, c'est un fondement bien-aimé qu'on ne peut pas toucher. Donc à travers cette remarque que Jude fait, nous comprenons que ces gens-là cherchent à toucher finalement la doctrine, ce qui fait la base de la doctrine chrétienne, ils veulent la changer. Donc il est question dans ce passage-là de la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Il s'agit de la parole de Dieu, l'évangile qui a été transmise une fois pour toutes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira aussi aux Galates que si on vous annonce un autre évangile que celui que vous avez déjà reçu, que cette personne soit maudite. qu'elle soit anathème, vouée à la destruction, parce qu'on a reçu un seul évangile. Nous lisons encore Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit : oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse 22 vient encore confirmer que personne ne touche à cette prophétie, ni pour ajouter quelque chose, ni pour retrancher quelque chose. La prophétie telle qu'elle a été donnée est une prophétie qui est totale, qui n'a pas besoin d'être interprétée d'une certaine manière, qui n'a pas besoin d'être changée, qui n'a pas besoin d'être diluée, qui n'a pas besoin d'être complétée. Elle est totale et que personne n'ajoute ni retranche quelque chose. L'évangile que nous avons reçu est un évangile qui est total. Et quand nous comprenons cela, bien-aimés, nous pouvons comprendre que finalement, il ne peut pas y avoir autre chose. Il ne peut pas y avoir un autre évangile. Car la Bible dit encore que celui qui atteste, quand on dit attester, c'est-à-dire qu'on confirme que ce qui est dit, c'est ça qui est la réalité. Et il dit, je viens bientôt. Et celui qui atteste ces choses-là n'est rien d'autre que le Seigneur lui-même. Il vient confirmer ses paroles qu'il a communiquées à son serviteur Jean en disant que personne ne doit retrancher ce qui a été donné. Il ne peut plus avoir un autre livre. Il ne peut plus avoir une autre personne qui peut venir prétendre, corriger, rajouter, compléter ce qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée d'une manière totale. Il n'y a pas un autre évangile qui sauve. Il n'y a pas un autre évangile qui nous annonce les choses à venir comme le Seigneur nous l'a annoncé. Il n'y a pas un autre évangile qui puisse sauver comme l'évangile que le Seigneur est venu donner. Que personne n'ajoute quelque chose. Nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 1er. Chapitre 1er, à partir du verset 19. 2 Corinthiens 1, 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Dans Apocalypse 3, il est écrit, voici ce que dit l'Amen. Et il est question du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est appelé l'Amen de Dieu. La Bible dit ici que l'Amen est prononcé par lui pour nous. Donc c'est lui qui est notre Amen. Et nous savons que lorsque une parole est donnée et que nous disons Amen, cela veut dire ainsi soit-il. Donc lorsqu'on dit Amen, on vient en quelque sorte conclure la parole qui a été donnée en attestant que nous sommes d'accord avec ce qui a été dit. Donc lorsqu'on dit Amen, c'est que nous reconnaissons que ce qui a été dit, c'est ça qui est la vérité. Or là, la Bible nous dit que cet Amen-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'Amen de Dieu. Donc tout ce que le Seigneur a fait, depuis l'Ancien Testament jusqu'au livre de l'Apocalypse, le Seigneur est venu dire Amen à toutes ces paroles. Donc lorsqu'on dit Amen, ainsi soit-il, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à rajouter. Quand on dit que nous sommes d'accord, il n'y a plus rien à corriger. Lorsque nous signons un engagement ensemble et que nous mettons la signature, cela veut dire que tout a été lu et que nous sommes d'accord avec tout ce qui a été dit. Personne ne pourra changer après, personne ne pourra rajouter, parce que nous nous sommes convenus que ce qui est écrit, c'est ça qui est la vérité. Alors lorsqu'on dit que le Seigneur Jésus-Christ est l'Amen de Dieu, ça veut dire que ce qui a été dit par Dieu, ce qui a été fait par Dieu, le Seigneur est venu mettre un point final à toutes ces choses-là, au point que nous ne pouvons plus rien changer. Il est venu être l'Amen de Dieu par sa mort et par sa résurrection. Le fait qu'il ressuscite venait clôturer finalement tout le plan que Dieu avait pour l'homme. Il fallait qu'il meure, mais qu'il ressuscite. Et la résurrection est le point final à l'évangile que le Seigneur est venu nous apporter, à la parole de Dieu que le Seigneur veut faire passer à l'homme. Et c'est lui-même qui est cet Amen. Lorsque on dit Amen, c'est le cachet qu'on vient mettre pour attester que ce qui est dit, c'est vrai. Nous savons que comment les rois fonctionnaient autrefois. Lorsqu'on donnait un ordre ou on écrivait une lettre pour envoyer dans une autre région, le roi avait une bague avec laquelle il mettait le cachet sur le courrier. Nous voyons aujourd'hui même, lorsqu'il y a des enquêtes policières qui sont faites et qu'ils prennent toute pièce qui pourrait servir pour l'enquête, on va les mettre sous scellé. Et une fois qu'ils sont scellés, il y a le cachet pour attester que ces choses-là sont véritablement utiles pour l'enquête. Et le Seigneur Jésus est venu mettre le cachet à la parole de Dieu, le cachet aux œuvres de Dieu, le cachet du plan de Dieu pour l'homme. Ainsi, l'évangile tel que nous l'avons reçu, le cachet a été déjà mis. Jésus-Christ lui-même, l'Amen de Dieu, est venu confirmer que cet évangile que nous avons reçu ne peut plus être changé, ne peut plus être retranché, il n'y a plus rien à rajouter. Alors, comprenons bien aimé que l'évangile qui a été donné pour tout homme est le même évangile. Il n'y a pas un évangile pour les catholiques, il n'y a pas un évangile pour les évangélistes, pour les protestants, ou pour les païens, ou pour les rois, non. C'est le même évangile. Donc, il n'y a pas de raison, en prime abord, que la parole soit interprétée d'une manière différente, d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre. C'est le même évangile qui a été donné pour tous. Jude le dit, cet évangile qui a été transmis, cette foi qui a été transmise au saints, une fois pour toutes. Il n'y aura pas une autre parole, il n'y aura pas un autre évangile. C'est pourquoi la Bible nous demande d'éprouver toute prophétie. Tout ce qui peut venir en dehors, extérieur à la parole de Dieu, qui pourrait même être communiqué par le Seigneur, doit être éprouvé à partir de la Bible. C'est la parole de Dieu, l'évangile, qui est l'unité de mesure. Comment vérifier que la prophétie est vraie? Comment vérifier que le songe est conforme à la volonté de Dieu? C'est en confrontant toutes ces choses-là à la parole de Dieu. Est-ce que la prophétie, est-ce que le songe, est-ce que la vision va dans l'esprit de la parole de Dieu? Si ça ne va pas dans l'esprit, bien-aimé, on peut mettre de côté facilement. Mais la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle a été transmise une fois pour toutes, elle a été éprouvée. Et elle ne peut plus être éprouvée, car le Seigneur est venu mettre le cachet, il est venu être lui-même l'amen de cette parole-là. Et tout ce que nous recevons à côté doit être éprouvé. Il y a un seul évangile, mais il peut y avoir diverses prophéties. Il peut y avoir divers songes, bien-aimés. Et imaginons, si aujourd'hui une œuvre, si un chrétien devait fonctionner à partir des songes ou des visions, chacun vient avec son songe, chacun vient avec sa vision, quelle direction on va prendre? L'évangile est venu arbitrer tout ça. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les songes passeront, les visions passeront, les prophéties passeront, mais la parole de Dieu, elle, demeurera éternellement. Et c'est dans cette parole-là que nous devons nous confier, parce qu'il n'y en a qu'une seule, elle a été éprouvée, elle a été prouvée, et le Seigneur a attesté que véritablement elle était de lui. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. La Bible dit, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. » Il y avait des discussions. Ceux qui ont vécu à l'époque du Seigneur pensaient que le Seigneur était venu dissoudre, était venu changer la loi de Moïse. Ils avaient l'impression, au travers des prédications du Seigneur, d'entendre autre chose que Dieu, que ce que Dieu avait annoncé. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Ça nous montre bien aimé, qu'il n'y a pas de distinction dans la parole de Dieu. Que ce soit ce que nous appelons l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, le Seigneur nous montre par là qu'il n'y en a qu'un, en réalité. Il n'y a qu'une seule parole de Dieu. Le Seigneur a parlé d'une manière différente, mais dans le même esprit, avant la venue du Seigneur, mais il est venu parler d'une manière beaucoup plus explicite avec la venue du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc les choses à venir allaient confirmer ce qui avait été donné auparavant. Confirmer, mais expliquer aussi d'une manière claire. Tel qu'on nous l'a expliqué dernièrement, l'ombre d'une personne reflète la personne, mais ça ne reflète pas la personne à 100%. Donc c'est une partie de la personne, c'est une image de la personne, mais la personne telle qu'on la voit physiquement, c'est elle qui correspond à la réalité. Lorsque on parle de l'ombre d'une personne, il peut prêter à confusion. Tu peux être dans un endroit où tu vois simplement l'ombre de la personne, tu penses que c'est une personne que tu connais, et lorsque la personne apparaît, tu te rends compte que non, c'est une personne que tu ne connais pas. Parce que l'ombre de la personne était simplement, comment dire, une partie de la réalité à venir. Et la manière dont les choses avaient été expliquées dans l'Ancien Testament était l'ombre de ce que le Seigneur allait venir expliquer d'une manière claire. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu l'abolir, parce que c'était vrai, mais je suis venu l'accomplir, je suis venu la manifester clairement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 7, il dit qu'il y a un combat au-dedans de lui. Il dit, ce qui est bon, je le sais. Ce qui est de la loi, je le sais. Mais lorsque je veux accomplir la loi, il y a une autre puissance, une autre force qui me pousse à faire le mal. Il dit, est-ce que je dis par là que la loi est mauvaise? Loin de là, la loi est bonne, mais c'est la chair qui n'accepte pas. Donc l'apôtre Paul a montré bien qu'il n'y avait pas une contradiction entre, je dirais, la loi que Dieu avait donnée et sa propre volonté communiquée par le Saint-Esprit. Il n'y avait pas une contradiction. La loi que la chair n'accepte pas, ça ne voulait pas dire qu'elle était mauvaise pour la chair. Il dit, non, elle est bonne. Mais la chair l'empêchait finalement d'entrer dans cette réalité-là. Il y a un seul évangile, il y a une seule parole de Dieu. Et aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens aussi qui ont l'impression que l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'à part. C'est quelque chose vraiment qui ne doit pas, je dirais, être reconnu ou appliqué dans notre vie. Bien-aimés, il y a une seule loi. L'apôtre Jacques dit, celui qui a aimé son prochain comme lui-même a accompli toute la loi. Toute la loi donc se renfermait dans ce verset-là qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ce que les Juifs de l'époque, ce que même nombreux chrétiens n'arrivent pas à comprendre, le Seigneur est venu maintenant l'accomplir, l'amour du prochain en se livrant lui-même à la croix pour son prochain. Donc ce qui était l'ombre des choses à venir, le Seigneur est venu maintenant le manifester en réalité. Ainsi cette loi que les hommes ne comprenaient pas, le Seigneur est venu la manifester d'une manière physique. Il est venu en faire la démonstration. Il est venu en montrer l'exemple afin que ce qui ne pouvait pas être compris, eh bien, finalement a été vu et peut être reproduit par la suite. Et c'était la même parole que le Seigneur était venu annoncer d'une manière claire. Et ça doit être pour nous, bien-aimés, quelque chose d'élémentaire, de fondamental, de se baser uniquement sur la parole de Dieu. Nous entendons tellement de choses aujourd'hui où on nous conseille de lire des livres pour comprendre la parole de Dieu. On nous conseille de lire tel livre pour compléter la parole de Dieu. Ce sont des abominations. La Bible est claire, nous avons reçu un évangile, une fois pour toutes. Apocalypse est clair, que personne n'ajoute et que personne ne retranche quelque chose. Tel que nous avons reçu la parole de Dieu, c'est tel que nous devons l'accepter, bien-aimés, et nous en contenter. Vouloir comprendre la Bible en cédant d'autres choses, bien-aimés, ça va nous amener un jour dans l'égarement total. Vouloir conduire notre vie en se basant premièrement sur les songes et les visions, au lieu de mettre la parole de Dieu au-dessus de toute chose, un jour, bien-aimés, on finira par s'égarer. Il y a une personne qui m'a appelé il y a quelques mois. Elle me dit, voilà, pasteur, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, j'ai gagné des millions. Alors, je me suis dit que il faut que j'aille jouer au loto ou bien un jeu comme ça pour que la bénédiction s'accomplisse. Je lui donne le passage de Hébreux 13 qui nous demande de ne pas chercher l'amour de l'argent, de ne pas chercher à s'enrichir, mais de nous contenter de ce que Dieu nous donne, car il est écrit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je lui donne ce passage, mais elle continue à raisonner, je suis sûr que le songe vient de Dieu. Je lui dis, mais comment tu peux être certain que ce songe vient de Dieu, sachant même que le contenu n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans sa propre parole? Tu veux t'appuyer sur le songe au lieu de sonder ce songe-là au travers de la parole de Dieu. Elle a persisté, bien-aimée, ça fait peut-être 3-4 mois. Et jusqu'aujourd'hui, la personne persiste encore. Pasteur, priez pour moi. J'ai dit, je prierai pour que tu entres dans le plan de Dieu. Mais je ne prierai pas pour ça. Parce qu'elle est certaine que c'est Dieu qui lui a parlé. Je lui dis, Dieu ne peut pas te parler différemment que dans la logique de sa propre parole. Et voilà combien de personnes s'égarent. Parce qu'au lieu de s'appuyer sur la parole, premièrement, ils veulent s'appuyer sur tout ce qui est extraordinaire, au risque de sortir de la parole de Dieu. Il y a un seul évangile, bien-aimé, et c'est sur cet évangile-là que nous devons nous appuyer pour discerner la volonté de Dieu pour notre propre vie. Nous devons nous appuyer sur cette parole de Dieu-là pour discerner si même nous-mêmes, nous sommes dans la volonté de Dieu. Il y a tellement de personnes qui s'égarent parce qu'ils demeurent dans des assemblées où les serviteurs se comportent mal. Ils sont là et ils souffrent quelquefois. Depuis des années, ils souffrent. Mais ils veulent à tout prix rester là, ils veulent à tout prix collaborer. Or, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous préserver de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alors aujourd'hui, c'est simple, bien-aimé, au travers de la parole, de savoir si nous sommes dans le vrai ou dans le faux. C'est pourquoi le jugement de Dieu sera irrévocable. Lorsque Dieu jugera, bien-aimé, ça sera sans pitié. Dès l'instant où l'homme meurt, la Bible dit dans Hébreux 9, 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, dès l'instant où notre vie sur terre s'arrête, en même temps, nous sommes jugés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme le monde va nous proposer, de faire appel. Il n'y aura pas d'appel, bien-aimé. Une fois que le jugement, on quitte la terre, le jugement est déjà prononcé, automatiquement la condamnation est prononcée. Il n'y aura pas marche arrière. Pas marche arrière parce que Dieu sous-entend que les choses ont été données d'une manière claire pour que nous puissions faire un choix aussi clair. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur a parlé à Israël, avant qu'Israël entre dans la terre promise, il dit, voici, je te donne un commandement. Il dit, ce que je te demande, ce n'est pas un choix qui soit de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, mais qui ira pour moi? Ce n'est pas un choix qui soit beaucoup trop haut dans le ciel, pour que tu dises, qui montera pour moi? C'est un choix qui est tout près de ton cœur. Voilà ce que le Seigneur va dire à Israël. C'est un choix qui est tout près de ton cœur. Donc c'est comme si le Seigneur avait mis toutes les circonstances, avait créé toutes sortes d'événements afin que Israël comprenne quel était le bon choix. Et c'est comme ça que Dieu nous jugera. Parce que Dieu estimera qu'il aura fait toutes choses, qu'il aura mis tous les moyens afin de nous faire comprendre est-ce que nous sommes dans sa volonté ou pas. Premièrement, par son évangile. Il y a un seul évangile. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même serviteur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La Bible est claire. Il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses-là. L'esprit que nous avons reçu, l'esprit qui nous a convaincus que Jésus-Christ était le Messie, c'est ce même esprit qui agit aujourd'hui dans le monde pour convaincre tout homme de péché, de justice et de jugement. C'est ce même esprit qui agit lorsque la parole de Dieu est prêchée pour convaincre chacun d'entre nous. C'est le même esprit qui agit pour nous tous. Il y a un seul et même esprit. Il est écrit là que il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Éphésiens 4:11 nous explique que à certains, il a été donné d'être pasteur, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres docteurs, d'autres encore prophètes. Diversité de dons, diversité de ministères, mais le même esprit. Donc, dans Éphésiens 4, 11, les différents ministères qui sont cités fonctionnent par le même esprit. Il n'y a pas un esprit différent en fonction du ministère. C'est un seul Dieu qui opère tout en tous tel que c'est écrit. Et la Bible déclare dans Éphésiens 4, 11 que ces ministères-là ont été établis dans l'Église pour amener les saints à la perfection et surtout pour les préserver afin qu'ils ne tombent pas à tout vent de doctrine, mais qu'ils arrivent à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, au travers de ces ministères-là, il y a une fonction précise, c'est pour maintenir les saints et les amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous voyons divers mouvements qui prétendent être chrétiens, mais dont tel ou tel ne ressemble pas à Jésus-Christ, alors nous devons nous interroger sur l'esprit qui les conduit, puisque le même esprit que nous avons reçu, le même esprit qui est censé conduire tous ceux qui se disent chrétiens, doivent nous conduire à ressembler à la même personne et à comprendre la même chose. La Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais il y a d'autres organisations dites chrétiennes qui disent qu'il faut être sauvé par les œuvres. Il faut faire beaucoup de porte à porte pour gagner un certain nombre de points pour être sauvé. Il y a un problème. Le même esprit doit nous amener à devenir, à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Alors, bien-aimés, nous comprenons que s'il y a un seul évangile, qu'il y a un seul Saint-Esprit, alors pourquoi y a-t-il diversité d'interprétation? Parce que le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de l'homme. Le problème vient des ambitions personnelles. Le problème vient de l'égoïsme. Le problème vient de l'état de notre cœur, qui fait que bien souvent nous interprétons les choses comme nous le voulons. Nous interprétons les choses comme cela nous arrange. La Bible est claire, il y a un seul et même esprit. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1 au verset 5 que nous avons reçu l'apostolat pour amener tout esprit à l'obéissance de la parole de Dieu, pour amener les païens à l'obéissance de la parole de Dieu. Il dit que nous avons reçu donc l'apostolat, le ministère apostolique pour amener les âmes au salut. Pour amener les âmes à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il dit, nous avons reçu l'apostolat. Or, la Bible est claire qu'il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Donc, le même esprit qui est donné pour amener les chrétiens à ressembler à Jésus-Christ, c'est ce même esprit qui est donné pour amener les païens à croire en Jésus-Christ. Et la réalité, bien-aimée, c'est qu'il y a comme une pagaille qui fait que, ce qui donne l'impression que l'Esprit Saint agit de manière différente. Tel va entendre l'Évangile, il va croire. Tel autre va entendre le même Évangile, il ne va pas croire. Et on s'interroge, mais est-ce qu'on lui a bien prêché? Est-ce qu'on lui a bien expliqué? Bien-aimé, lorsque Dieu parle, c'est pour sauver. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu nous a tous aimés d'une manière égale. Il n'a pas donné Jésus-Christ pour l'un et pas pour les autres. Il a donné le même évangile. Et selon Jean 16, c'est ce même Esprit Saint qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous lisons Jean chapitre 16. À partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Par la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. L'Esprit Saint convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il n'y aura pas plusieurs esprits, il y aura un seul esprit qui convaincra le monde entier. en tout cas qui cherchera à convaincre le monde entier que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus-Christ est venu mourir et ressusciter pour nous donner la vie. Il dit, il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien-aimés, c'est tellement simple aujourd'hui. Et nous voyons beaucoup de dénominations dites chrétiennes où Jésus-Christ n'est pas le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il me glorifiera. Il y a diverses assemblées où nous voyons que ce sont les hommes qui sont élevés, où ce sont des hommes qui sont glorifiés. Et ce qui est de plus malheureux, c'est qu'en face de ces hommes qui passent devant pour être élevés, le plus malheureux, c'est qu'en face d'eux, il y a encore une multitude de personnes qui acclament, qui applaudissent, qui louent Dieu devant un homme qui prétend être plus que Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'il me glorifiera, il parlera de moi. Or, nous entendons des mouvements où on ne parle que des hommes, où ce sont eux qui sont mis à la première place. Allez voir, nombreux sont les sites chrétiens, les sites de certaines églises chrétiennes où vous ouvrez la page, vous ne savez même pas il est question de quoi premièrement. Il faut vraiment fouiller pour voir le nom de Jésus-Christ. Vous voyez la photo d'un homme là, élevé, habillé d'une certaine manière, et vous avez l'impression que, je ne sais pas, c'est un maître de cérémonie, c'est un magicien ou je ne sais pas comment, mais il n'y a pas tout de suite le nom de Jésus-Christ qui est élevé. Le Seigneur dit, il prendra de ce qui est à moi et me glorifiera. C'est tellement simple, bien-aimé. Et c'est par le même esprit. Alors comment l'esprit qui est unique, l'esprit de Dieu, pourrait-il agir dans une assemblée pour élever un homme et dans une autre assemblée pour élever le nom de Jésus? Il y a un problème. S'il y a un seul et même esprit qui opère toutes choses, s'il y a un seul et même esprit que le Seigneur a envoyé, ce même esprit glorifiera le nom du Seigneur. Un esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Un homme qui se glorifie de sa propre vie, qui passe devant pour être élevé, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le conduit à faire toutes ces choses-là. Un seul et même esprit agit pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Il y a un seul évangile et un seul esprit qui agit et dans l'Église, mais aussi dans le monde, afin de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et nous devons être bien-aimés, être fermes sur ce point-là. Beaucoup, trop de chrétiens sont tolérants vis-à-vis du péché. Mais il faut le comprendre, bien-aimés, non. La même difficulté que nous avons à pratiquer la parole de Dieu, c'est cette même difficulté pour nous tous. Personne n'est avantagé devant le péché. Nous avons le même esprit qui nous donne la même capacité, qui nous donne la même force pour dire non devant le péché. Il n'y a personne qui est favorisé au point qu'on entend certains dire « Oui, mais pour les autres, ça semble être facile. Moi, je n'y arrive pas. » Il n'y a point de favoritisme dans le Seigneur. L'Esprit Saint qui soutient ton frère à demeurer dans la sainteté, c'est ce même Esprit Saint situé enfant de Dieu que tu as reçu. Alors si c'est possible pour ton frère de demeurer dans la fermeté, c'est aussi pour toi de demeurer dans la fermeté. La seule différence, bien-aimé, ce sont les intérêts qu'il y a dans nos cœurs. C'est ça qui fait la différence entre tel et tel. Et nous allons en venir. Il y a un seul Esprit. Genèse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 20. Genèse 3, le verset 20, il est écrit. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils l'ont revêti. Alors nous savons qu'est-ce qui s'est passé au commencement, comment Adam a désobéi, comment le péché est entré dans le monde. Lorsque Dieu avait créé Adam, la Bible dit que ce que Dieu a créé après, Adam a donné des noms à tous les animaux. Et là, il est écrit que Adam donna aussi le nom à sa femme et il appela Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Tous les vivants sont issus de Ève. Nous savons que, bien aimé, un chien ne peut pas produire des chats. Un chien ne produira que des descendants de la même espèce. Nous savons bien aimé qu'un pommier ne peut pas produire du citron. Il produira que des pommes. Et un homme ne peut produire aussi que celui qui est semblable des hommes. Or, la Bible dit que nous sommes tous descendants de Ève. Ève a été la mère de tous les vivants. Autrement dit, bien aimé, il n'y a pas eu de distinction lorsque Dieu a créé l'homme et a permis à la femme de pouvoir procréer. nous avons été tous procréés d'une manière identique. Il n'y a pas eu de favoritisme. Lorsqu'aujourd'hui, bien-aimé, on a nos enfants, c'est pas dans le ventre, bien-aimé, qu'on va décider que tel est intelligent, tel sera fort, tel sera beau, tel... Non, bien-aimé, tel que les choses se font, c'est comme ça que nous le recevons. Et Ève a été sujette à la même, comment dire, la même loi établie par Dieu. Et tous les hommes qui sont sortis de Ève ont été avec le même cœur, avec les mêmes soucis de la vie, avec les mêmes faiblesses, avec la même force. Ils ont été soumis au soleil comme tous, soumis au froid comme tous. Il n'y a pas eu de favoritisme. Nous avons été créés d'une manière identique. C'est pourquoi, bien-aimés, on ne peut pas aujourd'hui dire que tel peut comprendre et tel ne peut pas comprendre. Non. Nous sommes issus de la même mère qui est Ève, qui nous a créés d'une manière identique. Et Dieu l'a permis sans distinction, sans favoritisme. Donc, il n'y a pas aujourd'hui des hommes qui peuvent prétendre être des êtres supérieurs aux autres. Nous avons tous été créés hommes. Et la preuve, combien même aujourd'hui sur la terre, les gens veulent faire certaines classes, veulent faire des classes en disant qu'il y a un côté pour les riches, un côté pour les pauvres, un côté pour au milieu. Ils veulent faire toutes ces classes-là pour différencier. Il y a d'autres qu'on appelle les Illuminati, ceux qui veulent gouverner le monde. Chacun veut faire sa chose sur la terre pour montrer qu'il est supérieur à tel ou à tel. Mais la preuve, bien-aimée, que toutes ces choses-là sont des bêtises, c'est que tous nous mourrons. Alors on peut aujourd'hui, sur la terre, se faire notre propre film en disant que non, moi je suis plus que lui. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous dans quelques années et on sera ensemble dans le tombeau. C'est la preuve que finalement, il n'y avait pas un qui était plus que l'autre. Parce que la finalité pour tous sera la même. Bien qu'on veuille se mentir et se tromper sur la terre, la finalité, c'est que tous nous passerons devant le tribunal du Seigneur. Et ça, c'est ça la réalité. Nous avons été tous pareils. Nous lisons un autre passage. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3, le verset 11 nous dit, en parlant de Dieu, il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il dit, bien que l'homme ne puisse pas tout comprendre, la grandeur de Dieu nous dépasse. Les exploits de Dieu nous dépassent. La façon dont Dieu a créé les choses nous dépasse. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas tout saisir. Et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs que nous connaissons en partie, mais nous connaîtrons tout d'une manière totale lorsque nous serons au ciel. Il y a un autre verset qui dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées sont pour nous. Donc la réalité, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel nous ne pouvons pas tout saisir parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Néanmoins, la Bible nous dit que bien que nous ne pouvons pas tout saisir de Dieu, nous avons tous reçu la pensée de l'éternité. Donc tout homme, lorsqu'il a été créé, aujourd'hui a le souci de quelque chose qui le dépasse, de quelque chose qu'il ne peut pas saisir. C'est pourquoi l'homme a soif de tout ce qui est au-dessus de lui. Nous voyons tant de personnes aller consulter les féticheurs, les marabouts, les médiums, se retrouver dans des sectes parce qu'au-dedans de lui, l'homme a soif de quelque chose que la terre ne peut pas lui donner. Et c'est ce qu'il recherche. Car, et pourtant, l'éternité, finalement, c'est quelque chose qui le dépasse. Parce que ce qui est éternel n'est pas commun à l'homme, puisque l'homme est mortel. Donc finalement, qui c'est qui est éternel? Il n'y a que Dieu seul. Et cette pensée de quelque chose d'éternel que Dieu a mis dans le cœur de l'homme a été déposée afin que l'homme ait le souci un jour de rencontrer Dieu. Donc nous voyons encore au travers de ce passage-là que vraiment, nous sommes tous au même piédestal. Dieu n'a fait aucun favoritisme. La manière dont nous avons été créés, le souci qu'il a mis dans le cœur de chacun, bien-aimés, nous sommes tous au même niveau. Dieu n'a favorisé personne. Dieu n'a favorisé personne. C'est pourquoi, bien-aimés, sachant qu'il y a un seul évangile, il y a un seul Saint-Esprit, et nous voyons aussi qu'il y a un seul homme avec un seul cœur. Il n'y a pas de distinction. Dieu a fait les choses d'une manière parfaite. Il a fait les choses d'une manière droite afin de nous simplifier les choses, de nous simplifier la rencontre avec lui. Or, la réalité que nous voyons aujourd'hui, c'est que certains entendent, d'autres disent qu'ils n'ont pas entendu. Certains comprennent, d'autres disent qu'ils n'ont pas compris. Certains se disent chrétiens, mais ils disent qu'il faut compléter la Bible. D'autres se disent chrétiens, mais ils ont confiance que la Bible est la parole de Dieu. Et cela amène à confusion. Les gens de l'extérieur voient ça. Certains rigolent et d'autres disent, mais finalement, il faut compléter la Bible. Il faut expliquer la parole de Dieu. Et beaucoup cherchent à comprendre la parole de Dieu tout simplement avec les commentaires des hommes. Le commentaire d'un homme bien-aimé, c'est comme la prophétie, c'est comme la vision. Elle doit être éprouvée. C'est pourquoi il nous est dit que les Juifs de Bérée, lorsque l'apôtre Paul prêchait, ils allaient examiner dans les Écritures pour voir si ce que Paul avait prêché était vrai. Donc ce n'était pas dans un mauvais sens, mais ces gens-là étaient garants de leur propre salut. C'est pourquoi, bien-aimé, le salut, il est individuel et c'est individuellement que nous devons le conserver. Bien qu'ils avaient confiance que Paul prêchait, mais ils voulaient conserver leur salut et ils allaient vérifier si ce qu'on leur avait prêché était conforme à la parole de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur salut. Et c'est dans notre intérêt, bien-aimé, que de sonder les Écritures, que de méditer la parole de Dieu afin de comprendre est-ce que ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous prêche, va dans l'esprit de la parole de Dieu. Mais si nous voulons suivre d'une manière aveugle, il est écrit dans Osée 4:6, « Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. » Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous sommes tous égaux. Dieu nous a créés d'une même manière. Alors cette parole-là a été donnée pour nous tous. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 2:14 à 1 Corinthiens 3:3, il est question de trois hommes dans ce passage-là. On nous parle de l'homme spirituel, on nous parle de l'homme charnel et de l'homme animal. L'homme spirituel, celui qui juge de tout, celui qui marche selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. On nous parle de l'homme charnel, dans lequel il y a encore des divisions, il y a encore des disputes, bien qu'il ait accepté le Seigneur, mais il a encore un comportement semblable à ceux des païens. Et il y a l'homme animal, qui dit qu'il ne comprend pas. Les choses de Dieu sont pour lui une folie. Il ne les comprend pas. Il ne les comprend pas pourquoi. Est-ce que parce que Dieu ne veut pas qu'il les comprenne? Celui qui est charnel dans les disputes, dans les jalousies, il est charnel pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ce que l'homme spirituel a compris. Bien aimé, non, c'est faux. Ce qui fait la différence, qu'il y ait des hommes spirituels, qu'il y ait des hommes charnels et qu'il y ait des hommes animaux, des hommes qui ne veulent pas se convertir, c'est tout simplement la disposition de cœur qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde que nous sommes, il n'y a que cette configuration qui existe. C'est qu'il y a des gens qui croient en Dieu et qui mettent sa parole en pratique. Il y a d'autres qui ont cru, mais qui ont du mal à abandonner encore le monde. Et il y a ceux qui ne veulent pas croire, qui veulent continuer dans le péché et à vivre comme étant leur propre Dieu. Mais le même évangile, le même Esprit Saint a été donné et agi pour chacune de ces personnes. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout simplement la disposition du cœur. C'est ce qui fait aujourd'hui, bien aimé, que certains cherchent à corrompre la parole de Dieu. D'autres cherchent à diluer la parole de Dieu. Et que certains veulent tout simplement l'utiliser à leur propre fin, pour leurs propres intérêts. Pourquoi la parole de Dieu n'est pas acceptée? Pourquoi elle n'est pas reçue? Pourquoi d'autres résistent lorsqu'ils entendent la prédication? Et bien qu'ils se sentent concernés par ce qui a été dit, ils sortent de la salle, non même pas dans la repentance. Ils sortent dans la salle en allant continuer à la maison le même péché qui a été dénoncé pendant la prédication. Ce n'est pas parce que Dieu est mauvais. C'est parce que tout simplement, l'homme a été créé d'une manière libre premièrement. Et dans cette liberté-là, Dieu a voulu manifester son amour. Pourquoi tant de différences? Une première raison, on ne répondra pas à tout, mais on va essayer de répondre à quelques-unes. 2 Timothée chapitre 3. Pourquoi une telle différence dans la lecture de la parole, dans son interprétation, dans sa dispensation? 2 Timothée 3. Il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Aimant le plaisir plus que Dieu. Et nous voyons toutes ces caractéristiques qui nous sont données, dans lesquelles nous sommes aujourd'hui dans la fin des temps, sont des caractéristiques qui sont propres même à la chair. Alors pourquoi il y a une différence dans l'interprétation de la parole de Dieu, une différence dans la mise en pratique de la parole de Dieu? C'est tout simplement les désirs de la chair qui prennent le dessus sur la volonté de l'esprit. Ils aiment la chair plus que l'esprit. La Bible nous dit dans Galates 5 que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux sont opposés et c'est ce que nous vivons. Et malheureusement, beaucoup de gens ont plus de penchant pour les propres désirs de la chair. Alors pourquoi ils interprètent la parole d'une mauvaise manière? Parce qu'ils choisissent leurs versets. Ils ne veulent pas prendre les versets qui vont prendre leur intérêt d'une manière charnelle. Amis de l'argent, beaucoup aiment l'argent. Or Dieu dit n'aimez point le monde. Beaucoup aiment le succès dans le monde. Dieu dit n'aimez point le monde. Alors ce verset-là dérange. Alors on ne le prend pas. Mais on va chercher d'autres versets où on va parler que de l'amour, où on va parler que de l'aide. Mais là où on parle de redressement, ce qui va faire souffrir la chair, ce qui va pousser la chair à renoncer à tout ce qui fait sa satisfaction, eh bien, finalement, l'homme ne va pas choisir cette voie-là. Et étant disposé de cette manière-là, c'est normal, bien-aimé, qu'il puisse interpréter la parole comme ça lui arrange. Parce que interpréter la parole proprement comme le Saint-Esprit le veut, va l'obliger à renoncer à ses droits. Et il n'est pas prêt à cela. C'est pourquoi, bien que beaucoup de pharisiens avaient cru, la Bible dit, ils préférèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Bien qu'ils avaient conscience que ce qui était prêché par le Seigneur était la vérité, mais ils avaient fait le choix de servir le monde. Parce que les honneurs qu'ils avaient sur la terre, ils savaient qu'en acceptant l'évangile de Christ, ils devaient renoncer à toutes ces choses-là. Et beaucoup, finalement, sont dans ce système-là, où ils savent qu'en acceptant l'évangile tel qu'il est donné, tel que le Saint-Esprit le communique, ça va les obliger à renoncer à certains droits pour lesquels ils ne sont pas prêts à renoncer. Et c'est ce qui fait que beaucoup interprètent finalement les choses en leur faveur, interprètent les choses dans leur sens parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur propre vie. Et nous voyons lorsque nous lisons Matthieu chapitre 23, pratiquement tout le chapitre, le Seigneur remet en cause les pharisiens. Ils disent que vous êtes hypocrites, vous poussez les gens à pratiquer la parole et vous vous asseyez dessus, vous ne la pratiquez pas. Pourquoi? Parce que ce qui leur intéressait, c'était les honneurs. Ce n'était pas vraiment d'entrer dans cette pratique-là. Ils savaient qu'entrer à cette pratique, ils devaient renoncer à toutes ces choses-là. Et ils ne voulaient pas. Nous prenons un autre passage, toujours dans 2 Timothée, au chapitre 4. Verset 1er. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Viendra un temps où les gens choisiront leur propre docteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Qu'est-ce qui fait que les gens interprètent mal? Qu'est-ce qui fait que les gens changent la parole de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas au-dedans d'eux l'amour de la vérité. Ce sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Ce sont des gens qui ne sont pas, je dirais, comme de bon sens. Lorsqu'on a l'amour de la vérité, combien même il y a un ennemi en face de nous, mais nous reconnaissons que ce qu'il a dit est vrai, on reconnaîtra que ce qu'il a dit, c'est ça la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité, s'ils jugent déjà que cette personne est de mauvaise vie, il dira aussi que tout ce qu'elle dit aussi c'est faux. Combien même que c'est prouvé, que c'est clair, il n'acceptera pas. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Et malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens n'aiment pas la vérité. Ils choisissent des docteurs selon les penchants de leur cœur. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des gens quitter les églises. Mais tu as quitté pourquoi? Ah, maintenant, le pasteur ne m'a pas salué. Voilà la raison pour laquelle ils ont quitté les églises. Et c'est ça qui est malheureux. L'apôtre Paul dit, ne quittez pas vos assemblées, mais exhortez-vous plutôt. Quittez l'assemblée parce qu'il n'y a pas la vérité. Parce que tu sens que ce qui est prêché va t'amener à mourir. Là, bien-aimé, je suis d'accord à 200%. Mais quittez la vérité pour des conflits, nous sommes sur la terre. Et dès l'instant où nous vivons en communauté, il y aura forcément des moments donnés où il y aura des incompréhensions. Il y aura des moments donnés où il y aura des points de vue différents. qui sont secondaires, qui ne sont pas de questions d'ordre de vie ou de mort. Et à cause de ces choses-là, nous voyons des gens qui vont d'église en église parce qu'ils trouvent un défaut là-bas, parce qu'ils trouvent un défaut là-bas. Ça, c'est le refus d'aimer la vérité. Dans chacune des églises bien-aimées que nous pouvons visiter sur cette terre, on trouvera toujours des défauts parce que nous sommes sur la terre. Les églises sur la terre ne sont pas le paradis. Le paradis n'est pas sur la terre. Et étant donné qu'il n'est pas sur la terre, c'est normal, bien-aimés, que nous trouvons toutes sortes de maux sur cette terre et encore dans les églises. Parce que comme nous le savons, tous ceux qui sont dans les églises ne sont pas forcément chrétiens. Et la Bible nous le dit dans la parabole du blé et de l'ivraie, que parmi le blé, ben, il y a aussi de l'ivraie. Et c'est une réalité que nous devons accepter. Et dès l'instant où nous n'acceptons pas cette vérité-là, c'est qu'au-delà de nous, il y a un manque d'amour vis-à-vis de la vérité. L'amour de la vérité nous poussera à accepter la Bible telle qu'elle nous est présentée. Puisque Dieu nous dit que même dans son église sur la terre telle que nous la voyons, il y en a qui sont de lui et d'autres ne sont pas de lui. Acceptons cette réalité-là. Et quand on ne l'accepte pas et qu'on est blessé par tel ou tel par un frère, on quitte bien-aimé. C'est une manière de dire qu'on refuse ce que l'Évangile nous a annoncé. Il y aura des temps difficiles, il y aura des gens égoïstes, il y aura des gens fanfarons, des gens amis de l'argent, il y aura des faux frères. Donc on doit être prêt à cette réalité-là. Ne pas être prêt, c'est refuser ce qui nous a été présenté dans la parole. Or, nous avons reçu la foi une fois pour toutes. Ce qui a été donné, le Seigneur a dit Amen. Donc, tel que nous le vivons aujourd'hui, le Seigneur a dit Amen et nous serons emmenés à vivre ces choses-là. Et refuser de vivre ce qui peut être difficile dans la chair, même dans l'Église, c'est un manque d'amour par rapport à la vérité. Nous devons accepter cette vérité-là. Et beaucoup vont interpréter et finalement vivre leur vie chrétienne en fonction de leur propre penchant. Il y a des gens qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de pasteur. » Bien-aimé, ça c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Il y a des gens qui disent « Mais non, il faut que les choses se passent de telle manière, sans être fondées sur la parole de Dieu. » L'amour de la vérité nous amènera, bien-aimé, combien même ça peut être difficile pour la chair. On se dit « Mais c'est vrai que c'est dur. Mais puisque c'est écrit, je vais seulement m'y soumettre. » Et chacun vient avec sa propre théorie, avec son propre évangile, et il dit « Moi, c'est comme ça que je vais fonctionner. Je n'ai besoin de personne. » Bien-aimé, c'est faux. L'amour de la vérité nous emmènera à nous soumettre entièrement à cette vérité-là. Un autre point, Luc 23, à partir du verset 39. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation. » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Deux hommes à la croix crucifiés avec Jésus. Il y en a un qui parlait beaucoup, injuriait le Seigneur, « Mais sauve-toi toi-même, sauve-nous, puisque tu es le Messie. » Et l'autre voleur va reprendre en disant « Mais pourquoi tu parles comme ça ? » Lui, il n'a rien fait. C'est injuste qu'il soit là. Mais nous, nous sommes là, c'est justifié. Parce que les faits ont été démontrés. Nous avons mal fait et c'est normal que nous sommes là. Bien-aimés, les deux se sont parlé. Et l'autre dit « Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le Seigneur dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Pourquoi alors que les deux étaient sur la croix ? Pourquoi un a reçu la révélation que celui-ci était le Messie et pourquoi l'autre ne l'a pas reçu? Les deux, ils étaient au même niveau. Ils étaient voleurs pareils. Ils étaient condamnés pareils. Mais pourquoi, étant dans le même sort, l'autre, un va comprendre et l'autre ne va pas comprendre? Est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Est-ce que le Seigneur ne voulait pas que l'autre aussi soit sauvé? Il dit qu'il était venu mourir pour tous les hommes. Il avait annoncé, depuis Jean 3, donc avant même la crucifixion, le Seigneur avait déjà annoncé qu'il devait mourir pour l'humanité. Mais voici, un était orgueilleux. Un était moqueur. L'autre était juste. Et il a aimé la vérité. Il a reconnu que celui-ci n'était là pour rien. Mais nous, nous étions là pour quelque chose. Il s'est humilié. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Beaucoup ne reçoivent pas la révélation parce qu'ils sont dans l'orgueil. Et quand tu es dans l'orgueil, Dieu te regarde tout simplement et il te laisse parler. Il te laisse croire que tu es le plus fort, que tu es le plus grand. Il te laisse croire que tu comprends tout, comme certains qui veulent toujours exhorter mais qui ne veulent pas être exhortés. Et Dieu regarde. Et celui qui s'est humilié, Dieu lui a donné la révélation que celui qui a la croix causée de toi, c'est lui qui est le Messie. Et il reviendra. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. Il a reçu la révélation parce qu'il s'est humilié. Beaucoup qui prétendent être les meilleurs, la meilleure église, le meilleur pasteur, le meilleur tout ce que l'on veut, bien-aimé, quand on prétend être le meilleur, on ne peut rien donner de bon. Parce que ce qu'on donne comme nourriture aux brebis, c'est ce qui nous vient du Seigneur. Mais lorsqu'on est orgueilleux et qu'on ne reçoit rien de Dieu, on ne va donner que tout ce qui est de la chair. Or, la chair, bien-aimée, ne peut pas nourrir l'âme ni l'esprit. La chair ne peut pas être agréable à l'esprit. Impossible. Pourquoi ces gens ne reçoivent rien? Pourquoi une telle distinction? Parce qu'il y en a qui sont dans l'orgueil, qui veulent comprendre la parole comme d'une manière théorique, qui veulent comprendre la parole en se disant « je n'ai besoin de personne », qui veulent comprendre la parole en faisant des études. Nous voyons aujourd'hui des personnes reconnues comme étant pasteurs simplement parce qu'il a été à l'école de théologie. Alors il passe un stage, pasteur stagiaire, et ensuite il passe pasteur principal ou titulaire, je ne sais pas comment on appelle ça. Pourtant nous avons lu, bien aimé, il y a diversité de ministères, mais un seul et même esprit. On n'est pas serviteur de Dieu, autorité d'une assemblée, parce que nous avons été à l'école. On l'est parce que le Saint-Esprit l'a voulu, parce que le Saint-Esprit a établi. Et lorsqu'on l'est par les hommes, c'est normal, bien aimé, qu'on ne puisse pas faire du bon travail, c'est normal que l'on puisse rien communiquer. Parce que Dieu n'est pas dans un schéma administratif. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Et le Saint-Esprit conduit en fonction de la parole de Dieu. Or, la Bible nous montre clairement que c'est Dieu qui a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. C'est Dieu qui a établi, le Saint-Esprit qui a établi. L'orgueil est un point bien-aimé pour lequel nous devons prier. Prier parce que naturellement, l'homme est très orgueilleux. Et lorsqu'on est orgueilleux, c'est normal que nous ne puissions pas comprendre ce que la parole de Dieu nous donne. Le temps nous manque, je vais citer encore deux points. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Galates, il dit dans Galates 3 que « Mais qui vous a dépourvu de sens ? Pourquoi êtes-vous dépourvu de sens ? Qui vous a fasciné au point de vous ramener aux œuvres de la loi ?» Et il va donner l'exemple d'Abraham en disant « Est-ce qu'Abraham a été justifié par la loi ?» Abraham a été justifié par la foi. Il dit « Mais qui vous a dépourvu de sens ?» Et déjà, lorsqu'il commence l'épître au chapitre 1er, il dit, mais je m'étonne de ce que vous vous détournez facilement de la parole de Dieu. Vous avez reçu un évangile. Est-ce que vous l'avez reçu par la loi ou l'avez reçu par la grâce? Il dit, c'est étonnant que facilement vous en sortez. Et il va tout au long de l'épître expliquer, et nous comprenons qu'il s'agit là que des personnes qui étaient venues et enseignées à l'église de Galates de revenir aux œuvres de la loi. Or, l'œuvre de la loi nous amène à prouver que nous sommes capables. L'œuvre de la loi nous amène à mériter notre salut. Et beaucoup cherchent à mériter le salut. Ils veulent travailler pour paraître devant les hommes au lieu de chercher à plaire à Dieu. Beaucoup veulent faire pour même chercher à épater Dieu. Combien même ils peuvent être fatigués ou je ne sais pas comment, ils veulent tout faire dans un esprit de produire quelque chose d'une manière physique. Et Dieu n'est pas dans ce fonctionnement-là. Il est écrit dans Éphésiens 2:8 que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et beaucoup veulent revenir aux œuvres, ils veulent prouver qu'ils sont capables de faire quelque chose pour montrer. Et lorsque Dieu voit comme ça, il nous regarde. Puisque la loi, c'est l'ordre du mérite. Donc pour le mérite, c'est-à-dire tu es capable de faire. Alors comme tu es capable de faire, Dieu regarde, il te laisse faire. Par tes propres forces. Et là, il n'intervient pas. Et beaucoup qui sont dans ce schéma-là finissent par se fatiguer, finissent par se rebeller contre Dieu. Ils finissent par être en colère et ça se voit même sur le visage. Quand ils prient pour un sujet, lorsque Dieu n'a pas accompli, c'est comme s'ils avaient plus d'amour que pour Dieu, que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le schéma de la grâce ou dans lequel Dieu nous demande simplement d'ouvrir la bouche et Dieu agira. Dieu n'a pas agi et c'est la colère, c'est l'énervement. Ça, c'est les œuvres de la loi. dans lequel on veut prouver que nous sommes capables, dans lequel on veut prouver que nous sommes meilleurs que l'autre. Il y a d'autres qui passent leur temps à comparer, à regarder ceux qui ont des faiblesses. Mais lui aussi, mais il abuse. Mais lui aussi, mais depuis longtemps. S'il abuse, si ça fait depuis longtemps qu'il ne change pas, ça c'est son problème entre lui et Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que lorsque nous constatons qu'il y a une faiblesse chez l'autre, c'est que nous puissions prier pour le fortifier. Et non pas assaisonner encore, mettre encore un poids sur lui par des murmures et toutes sortes de paroles. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. C'est que nous puissions vraiment manifester l'amour à ce moment-là. Mais dès l'instant où nous revenons aux œuvres de la loi, ça devient un obstacle pour que la grâce de Dieu coule. Parce que ce que nous pouvons comprendre de Dieu, ce que nous pouvons interpréter dans la parole de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur a dit à Simon-Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu as confessé que je suis le Messie, je suis le Christ. Tu es heureux, mais ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a révélé. » Ce n'est pas par toi-même que tu peux comprendre ces choses-là. Ce que nous pouvons comprendre de l'Évangile, bien-aimé, ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas par nous-mêmes. Aucun homme ne peut comprendre le Seigneur si Dieu ne se révèle à lui. Personne. Donc ce que nous pouvons comprendre, c'est par la grâce. Mais si nous nous mettons sous l'esprit de la loi, nous ne sommes plus dans la grâce. Étant donné que nous ne sommes plus dans la grâce, c'est normal, bien-aimé, que chacun va interpréter les choses comme il le croit, comme il le pense. Mais sa vie témoigne qu'il n'est pas sous la grâce. Et étant donné qu'il n'est pas sous la grâce, il ne peut pas comprendre ce que le Seigneur veut. Et un autre point pour finir, qu'est-ce qui nous manque? C'est la simplicité de cœur. La foi d'un enfant qui croit l'Évangile tel que c'est écrit. Puisque c'est écrit que Jésus a marché sur les eaux, donc certainement c'est que c'est vrai. On le croit. Puisque c'est écrit comme ça a été une discussion avec un frère et puis un débat qui a été souvent évoqué ici, que dans l'arche de Noé, il y avait tout même des moustiques de toute espèce. Puisque c'est écrit, certainement c'est vrai. Mais dès l'instant déjà où nous avons du mal à croire à ces choses-là, pourquoi Dieu va-t-il nous révéler autre chose? Le Seigneur dit, mais vous avez déjà du mal à croire à ce que je parle de ce qui est terrestre. Alors qu'en sera-t-il des choses célestes? Vous n'y croirez pas non plus. Il nous manque la simplicité de cœur, la foi des enfants qui font qu'ils acceptent tout ce que Dieu leur donne sans discuter. Lorsque les gens sont venus annoncer la mauvaise nouvelle à Jaïrus, ta fille est morte, le Seigneur lui a dit une chose, ne crains point, mais crois seulement. Ne crains point, mais crois seulement. Quand on dit crois seulement, ça veut dire n'ajoute rien d'autre. Crois, point. Il n'y a pas réfléchi, crois et réfléchis, crois, médite. Non, crois seulement. Donc le seulement là isole le verbe croire qui nous amène à nous contenter de ça. Crois seulement. C'est ça la foi d'un enfant. Il croit seulement. La foi d'un adulte, c'est qu'un peu avant de croire, il réfléchit d'abord. Il se pose encore des questions. Il doute encore. Et il finit par croire. Mais des fois, le temps qu'il finit par croire, la bénédiction est déjà passée. Pendant que tu réfléchis, d'autres sont déjà en train d'être bénis parce qu'ils ont accepté de croire tel que c'était écrit. Ils ont accepté de pratiquer tel que c'est écrit. Et c'est pourquoi beaucoup traînent, bien-aimés. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui n'avancent pas. C'est qu'il y en a qui ont fait le choix de croire seulement, de ne pas se poser des questions. C'est écrit comme ça, je vais pratiquer comme ça. Il y a d'autres, ils sont encore dans les oui mais tel. Et le temps que de oui mais, les autres sont en train d'avancer avec le même évangile, avec le même esprit, avec le même Dieu. Nous avons reçu un seul évangile, un seul Saint-Esprit qui agit pour nous tous, bien-aimés, dans la faveur de tous, pour le salut de tous et dans la volonté du même Dieu. Alors si aujourd'hui, il y a diversité dans la compréhension, dans les interprétations, dans la pratique. Le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de nous. Il y a certainement d'autres raisons, d'autres points que le Saint-Esprit complète en mettant la conviction dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous interpelle pour nous ramener chacun, je dirais, à la même unité. Parce que c'est ce qui est écrit aussi dans Éphésiens 4, 11, quand on parle des ministères qui ont été établis pour nous amener à la stature de Christ, mais à l'unité d'une même foi. C'est ça. Et cette même foi devrait être pratiquée d'une manière identique. C'est ce qui fait, bien aimé, que nous voyons un chrétien en Chine ou bien dans n'importe quel pays, nous sentons vraiment que c'est notre frère parce que c'est le même évangile et c'est le même esprit. Amen. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Seigneur, sois béni, sois glorifié encore ce soir, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te rendons gloire, Seigneur de gloire, parce que tu nous as transformés. Tu as transformé, Seigneur, le cœur de pierre que nous avons en cœur de chair. Et si aujourd'hui nous pouvons croire en toi, c'est par ton Esprit Saint, c'est par ta grâce. Seigneur de gloire, tu vois les réalités qui nous rattrapent. Les soucis de ce monde, Seigneur, l'orgueil, la convoitise, l'amour de ce monde, Seigneur, qui nous empêche de comprendre pleinement ta parole et bien souvent qui nous détourne de tes voies. Seigneur, nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de distinctions dans le christianisme, Seigneur. Or, la réalité, c'est qu'il y a un seul évangile et une seule parole et un seul esprit. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous à marcher vraiment dans la même unité de foi, en nous humiliant les uns envers les autres, Seigneur, en nous soumettant les uns envers les autres, Seigneur, afin que par ton Esprit Saint et par ton amour, Seigneur, tu puisses vraiment nous éclairer, Seigneur, afin que nous marchions dans la même voie. C'est toi qui es le bon berger, Seigneur, et nous croyons qu'il y a un seul berger. Alors cela sous-entend aussi, Seigneur, qu'il y a un seul troupeau. Et nous voulons être dans le même troupeau, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens agir encore dans nos vies. Viens nous conduire encore sous ta main puissante, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur de gloire. Délivre-nous de toute forme d'orgueil, de toute forme de complications, Seigneur de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Libère-nous, Seigneur, de toute forme de désir de la chair qui refuse, Seigneur de gloire, de vivre selon l'Esprit. Dans le nom de Jésus, Père, nous te bénissons pour ce que tu as accompli dans nos vies. Jusqu'aujourd'hui, Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as prévu de faire avec nous, pour le plan merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment t'élever, te rendre toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur de gloire, que ta gloire subsiste à jamais, comme il est écrit, Seigneur de gloire, que l'étendue manifeste l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Que ce soir encore, tu puisses te réjouir, Seigneur de gloire, de l'œuvre que tu as faite en nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Car ce que tu commences, Seigneur, tu l'amènes à la perfection. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Alléluia. Que ta gloire subsiste à jamais, Seigneur. Dans le nom de Jésus.